Fokker, l'homme volant, par Jules Chancel. Ce fut un bien terrible garnement, ce petit Hollandais de 12 ans, qui aux environs de 1900 faisait le désespoir de sa famille, ainsi que des maîtres d'école de la jolie et paisible ville de Hartens, en Hollande. Après avoir réalisé une petite fortune dans les colonies, le papa Fokker avait regagné son pays natal et se proposait de couler une vieillesse paisible en cultivant ses tulipes, mais il avait compté sans son diable de garçon. Chaque jour, en effet, il était assailli des plaintes des professeurs se lamentant sur l'irrégularité et la paresse de cet élève déplorable, qui d'ailleurs n'était pas plus docile à la maison où il prétendait également n'en faire qu'à sa tête. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'était que ce paresseux invétéré, quand il était sur les bancs d'une classe, devenait, dès qu'il était livré à lui-même, un travailleur enragé, mais travailleur de besogne manuelle, dans lesquels il se montrait adroit et ingénieux. Dans le grenier de la maison paternelle, qu'il s'était réservé de haute lutte, il avait installé un véritable atelier où il passait presque tout son temps à chercher et à combiner les jouets mécaniques les plus compliqués. Il commença par exemple la construction d'un chemin de fer qu'il perfectionna petit à petit au point d'en faire un petit chef-d'œuvre, surtout avec les moyens de fortune dont il disposait. Les rails, cloués sur le sol, étaient découpés dans des boîtes de conserve, les aiguilles fonctionnaient à merveille, et la force motrice avait tout simplement été prise sur le courant du trolley électrique qui passait sous sa fenêtre. Comme les visiteurs l'importunaient en venant le voir dans son grenier, il s'isola à l'aide d'un courant électrique encore, qui infligeait à ceux qui touchèrent le bouton de la porte de désagréables commotions. Après quoi, Tony s'attaqua à la fabrication d'un moteur à explosion, et comme tous ses travaux l'empêchaient de plus en plus d'apprendre ses leçons, il imagina à l'école un système de télégraphie optique qui lui permettait de les réciter sans les avoir lus. La première maraude sérieuse de ce jeune chercheur fut l'invention d'un pneumatique métallique et incroyable qu'il fabriqua, toujours dans son grenier, et qu'il expérimenta d'abord sur sa bicyclette et ensuite sur une vieille auto achetée avec on ne sait quel argent au marché de la ferraille et dont il avait remplacé lui-même les pièces défaillantes. Chose extraordinaire, la voiture marcha et les pneus métalliques tinrent sur 50 kilomètres de dur pavé. Enhardi par ces résultats, le gamin va demander au directeur de l'école, ahuri de son aplomb, 3 mois de congé et obtient de son père que celui-ci prenne un brevet pour son invention. Mais le brave Hollandais fut roulé dans cette affaire. On lui dit qu'un brevet analogue était déjà pris par un autre inventeur. Bref, argent, temps, travail, tout était perdu. Nullement découragé, Tony annonça alors qu'il voulait se lancer dans l'aviation, science alors toute nouvelle, et où il ne risquerait plus d'arriver après les autres. « Fais ce que tu voudras, » lui dit son père désenchanté, « mais ce qu'il y a de certain, c'est que je ne te payerai jamais d'aéroplane. »« Bon, » répliqua l'enfant, « alors j'en construirai. » C'était l'époque où venaient d'avoir lieu les premiers essais des frères Wright au camp d'Ovour. Ces expériences affolèrent le jeune Tony, qui passait ses nuits et ses journées à fabriquer d'innombrables modèles d'aéroplanes, perfectionnant celui de Wright. Il aboutit ainsi à sortir un cerf-volant, sans aileron, fabriqué avec des tiges de bambou et du calicot, qu'il se déclarait prêt à essayer, quand heureusement pour lui, car il se serait infailliblement tué, l'autorité militaire hollandaise choisit ce moment pour l'appeler à faire son service. Mais le jeune homme avait encore moins de vocation pour le métier de soldat que pour celui d'étudiant. Aussi, tous ses efforts convergèrent-ils vers un seul but, se faire réformer. Il y réussit, après une série d'épreuves dignes d'inspirer la verve d'un Courteline, et revint à Hartens, libéré, avec 40 centimes dans sa poche. À ce moment, la situation de Tony devint tragique. Ses parents voulaient l'envoyer à l'université, mais il finit par obtenir une transaction. Il suivrait les cours d'une école d'ingénieurs à Bingen. Dès son arrivée dans cette école, il apprend qu'on venait d'ouvrir un cours d'aviation en Allemagne, à Zollbach, près de Mayence. Il s'agissait d'obtenir de son père l'autorisation de remplacer Bingen par l'aviation. Le papa finit par consentir et, fou de joie, Tony accourut à cette école où il constate qu'il était presque le seul élève et que son professeur n'en savait pas plus long que lui. L'école s'était bien procuré un moteur d'aviation, mais il incombait aux élèves de construire l'avion. « Tant mieux !» songe Fokker, et il se met aussitôt à travailler de ses mains habiles comme il le faisait dans son grenier. Hélas, l'argent, toujours l'argent, lui manque. On lui demandait 1000 marks de caution pour avoir le droit de voler. Le papa envoie encore les 1000 marks. Au bout de quelques semaines, l'avion que Tony avait construit à peu près seul était terminé. On y adopta un moteur d'automobile, et le fameux professeur, qui arrivait précédé d'une réputation de pilote expert, se prépara à l'essayer. L'appareil ne se décida jamais à s'envoler. Tout au plus arrivait-il à rouler avec obstination sur la pelouse, au point qu'on l'avait surnommé la tondeuse. Et l'école, qui était sur le point de faire banqueroute, refusait énergiquement d'acheter un autre moteur. Dès lors, toutes les belles espérances de Fokker se trouvaient compromises quand il fit la connaissance d'un riche officier de l'armée allemande, nommé Dahm, qui se prit d'un tel enthousiasme pour les modèles construits par le jeune homme et se déclara disposé à partager avec lui les frais de construction d'un véritable aéroplane. Nouvel appel à la caisse du papa, pression sur le directeur de l'école que Tony oblige à lui restituer les 1000 marks de sa caution. Enfin, au bout de 3 mois, Tony se voyait en possession, pour la moitié tout au moins, d'un appareil sérieux. De plus, son associé avait obtenu, par ses relations, l'autorisation de se servir du hangar à zeppelin de Baden. C'est dans ce berceau de l'aviation commerciale que vint au monde le premier avion de Fokker. Les essais devaient s'effectuer quelques jours avant la Noël de 1910, et Tony signale dans ses mémoires ce grand événement. « Quand cet appareil construit et piloté par moi quitta le sol, écrit-il, et accomplit un vol de 30 mètres, mon cœur se gonfla de joie. J'étais comme Dolbois lorsqu'il aperçut le Pacifique, ou comme Newton quand lui apparut la signification de la chute de la pomme. » Et les essais se répétèrent. Mais Tony, qui n'était secondé par personne, se trouvait obligé de mettre lui-même son hélice en marche, ce qui nécessitait de gros efforts, puis tout aussitôt de se glisser sous l'aile et de courir prendre la place de pilote. Le vent de la course sur son corps en sueur détermina une pneumonie. On le force à se coucher, mais le lendemain, en dépit de ses 40 degrés de fièvre, il déclare qu'avec ou sans pneumonie, il serait sur le champ d'aviation. De semblables convictions devaient justifier les succès futurs. Le 16 mai 1910, il passait son brevet de pilote en présence du président de l'aéroclub de Mayence, épreuve assez dure pour l'époque et dont il se tire avec honneur. Une fois pilote breveté, il prenait rang parmi les personnages importants du pays. Les riches oisifs résidant dans les environs avaient pris l'habitude de venir en promenade à son hangar, et son nom commençait à se répandre comme celui d'un des premiers pionniers de l'aviation. Grâce à son père encore, il put racheter la part de son associé et le voilà libre et seul maître de son appareil. Une petite apothéose locale couronna la première étape de notre jeune héros. Il fut sollicité par les autorités de sa ville natale pour venir y voter le jour d'une fête nationale. « Pour moi, déclare l'aviateur, cette journée reste l'apogée de ma vie. » Il se trouvait en effet réhabilité, mieux encore glorifié dans cette ville dont il était parti considéré de tous comme un bon à rien. Son père lui rendait sa confiance et, pour la lui prouver, lui faisait cadeau de la montre en or qu'il portait depuis l'âge de 15 ans. « Je ne lui demandais pas autre chose ce jour-là, » conclut ironiquement l'aviateur. Nous glisserons rapidement sur les années qui suivirent ses premiers succès, années que le jeune homme, devenu un as, passa à Johannisthal, la Mecque de l'aviation allemande. Dans ce milieu nouveau de jeunes gens riches, menant entre deux vols à vibrer en deux héros, risquant leur vie chaque jour, Tony Fokker resta le petit mécano simple et travailleur qu'il avait toujours été, et s'il arriva à s'imposer, ce ne fut pas par ses folies, le luxe de ses tenues, mais par son assiduité et l'audace de ses vols bientôt reconnus comme sensationnels. En 1912, il veut, comme Pégou, boucler la boucle sur son aéroplane et il réussit cet exploit inédit en Allemagne, à l'aveuglette, sans savoir comment il fallait s'y prendre. Le voilà cette fois définitivement lancé, demandé dans tous les aérodromes où il fait des exhibitions sensationnelles, risque 100 fois sa vie, mais gagne de l'argent. Il arrive à la suite de concours très pénibles à obtenir sa première commande de l'armée, et aussitôt c'est la guerre. Avec la guerre, la vie du jeune aviateur change du tout au tout. Après avoir passé des années à gravir péniblement les derniers barreaux de l'échelle, il se trouvait tout à coup hissé jusqu'au sommet sur les épaules d'une nation. Quelle sensation prodigieuse, quel enivrement éprouve alors ce jeune homme! On a reproché à Fokker d'avoir lié son sort à celui des Allemands. Mais il répond à cette critique que son pays l'avait méprisé et avait préféré aux siens les avions français, que l'Angleterre et l'Italie n'avaient même pas répondu à ses propositions, seule l'Allemagne, où il était venu par hasard, l'avait accueilli. Le jour même où la guerre fut officiellement déclarée, Fokker reçut un télégramme de l'autorité militaire qui s'appropriait tous ses appareils. Avec l'argent que cette réquisition lui rapporta, le constructeur remboursa les 300 000 marks engagées dans son affaire par son oncle et ses commanditaires. Il devenait alors seul maître de son industrie et à quel moment? Les combats aériens commencèrent plusieurs mois après l'apparition sur le front des appareils d'observation. Peu à peu, ces observateurs se mirent à emporter avec eux des carabines, des revolvers, mais ces armes étaient d'un effet à peu près nul. La guerre aérienne ne commença vraiment que le jour où fut inventée la mitrailleuse tirant à travers l'hélice. Fokker se vante d'être le père de cette terrible invention. Chez nous, on en attribue l'honneur à Roland Garros, et voici comment le constructeur explique ses contradictions. Vers 1916, un avion français tombe dans les lignes allemandes. C'était celui de Roland Garros, et les aviateurs allemands constatèrent alors avec le plus grand intérêt que celui-ci avait fixé une mitrailleuse à l'avant de sa carlingue. Pour empêcher l'hélice d'être criblée, ils l'avaient blindée. Aussitôt cette découverte faite, on fit venir Fokker à Berlin. On lui montra l'appareil français et on lui dit « Il faut faire mieux, cherchez !» La semaine suivante, Fokker revenait au quartier général avec la mitrailleuse synchronisée actuelle, dont le tir était déclenché par l'hélice elle-même, de façon que les balles passent entre les palais sans les toucher. L'essai de cet appareil fut fait à l'état-major du Kronprinz, et celui-ci demeura fortement impressionné par les résultats de cette épreuve et aussi par l'habileté du pilote. Le lendemain, on affublait Fokker d'une tunique d'aviateur militaire et on prétendit lui faire expérimenter son invention dans ses combats, mais il refusa, en prétendant qu'il était simplement inventeur, neutre et ne voulait pas être combattant. D'ailleurs, comment aurait-il pu avoir le temps de l'être? À la suite des succès remportés sur le front grâce à son appareil par les As, Bölk, Immelmanns, von Richthofen, etc., le petit mécano hollandais, âgé de 25 ans à peine, devint du jour au lendemain le plus grand industriel de l'Allemagne. Puis, ce fut la folie du temps de l'inflation et enfin l'armistice, nouvelle difficulté à surmonter et peut-être les plus considérables de toutes. Du jour au lendemain, Fokker est obligé de fermer ses 5 usines, car les Alliés avaient stipulé que l'Allemagne aurait les ailerons et que tous les Fokker qu'elle possédait seraient détruits. Lui-même songe alors à s'en aller, mais il est très surveillé. Il paye rubis sur l'ongle tous ses impôts, ses collaborateurs et s'enfuit à Travemünde avec 30 millions de marques enfermées dans des balises, comme s'il allait passer le week-end sur son yacht. Le voici en sûreté à Amsterdam avec son or et son matériel. Ce départ n'alla pas naturellement sans soulever les protestations des Allemands et surtout des révolutionnaires qui étaient alors les maîtres du pays. On essaya de le faire revenir sous prétexte de régler sa situation, mais bien entendu, Fokker, qui prétendait être hollandais et non allemand, resta dans son pays, où d'ailleurs il voulait se marier avec une jeune fille qu'il avait emmenée avec ses avions et sa fortune. Il créa dans son pays la compagnie hollandaise de fabrication des avions, qui est maintenant la 3e industrie néerlandaise, grosse fournisseuse des États-Unis. Pendant comme après la guerre, ce diable de petit garnement de Peck est devenu un des plus importants industriels du monde. Ainsi s'achève Fokker, l'homme volant, par Jules Chancel.